Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Voilà, je vous invite à ouvrir notre Bible, pardon, dans le livre de la Genèse, c'est le premier livre de la Bible, Genèse, chapitre 25, et nous allons prendre un texte, assez bref d'ailleurs, qui va nous situer dans notre réflexion, dans le chapitre 25 et au verset 27, voilà. Alors, c'est une très vieille histoire, mais qui a toujours son actualité, qui est toujours d'actualité dans notre monde. Alors voilà ce que je lis. Les enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Alors il est vrai que pour le lecteur non familiarisé avec la Bible, il peut se poser la question, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de recette de cuisine ? On pourrait peut-être le présenter de cette façon. Vous savez ce que c'est que les lentilles? Savez-vous ce que c'est qu'un roux? Je vais vous expliquer tout ça. Et demain, vous pourrez le servir. Vous verrez. En tous les cas, il y a quelque chose qui est tout à fait particulier. C'est l'attitude de ces deux frères qui est pleine d'enseignements pour chacun d'entre nous et qui vaut à travers tous les temps et tous les âges. Vous savez, il y a dans cette histoire quelque chose de particulier, et cette histoire s'illustre, on peut le dire de cette manière, par l'adage suivant que vous connaissez, « Il ne faut pas lâcher la proie pour son ombre ». Vous avez déjà entendu ça? Non? Non? Alors, je vais vous répéter, comme ça vous l'aurez entendu deux fois. Après, vous ne pourrez pas dire que vous ne le connaissez pas. Hein? « Il ne faut pas lâcher la proie pour son ombre ». C'est-à-dire qu'il y a des choses dans la vie, quand on les tient, il faut les garder. Parce que si nous parlons de parties de chasse, comme cela est dit, alors un chasseur, il poursuit des proies. Et par quels moyens peut-il les atteindre? Je ne sais pas, je ne vais pas déterminer la manière. Mais toujours est-il que quand il a une proie, eh bien, surtout si elle a des ailes, eh bien, il va la prendre, il va la garder et il va la conserver pour finalement eh bien, la manger. Et il faut faire attention parce que dans la vie, il y a quelquefois derrière certaines choses, l'ombre. Et c'est certain que si vous courez après l'ombre, vous n'aurez jamais la proie. Ça, c'est clair. Et c'est bien l'histoire de notre lecture ce soir. Alors, il nous est simplement, dans ce texte, il nous est dit que ces enfants grandirent. Alors, permettez-moi de vous expliquer. C'est que il y a un couple dans la Bible, patriarche il en est, dont le père se trouve être tout simplement Isaac, et la mère de ses enfants, c'est Rebecca. Et nous savons qu'il y a bien sûr une formidable histoire de vie, de foi, avec un père comme Abraham, parce que Isaac c'est le fils, hein, tout simplement, de la promesse, hein, de ce grand homme de foi qui est Abraham. Alors ce couple, après avoir attendu très longtemps, des enfants ou un enfant, ils vont avoir en même temps des jumeaux. Et quand on considère un petit peu les choses à travers ce qui nous est dit dans les textes, on s'aperçoit que normalement des jumeaux ça se ressemble. Des vrais jumeaux ça se ressemble. Hein, ils ont les mêmes aspirations, ils se ressemblent physiquement, et puis ben, ils sont inséparables. Mais là on peut dire que ce sont des jumeaux qui sont opposés l'un et l'autre. Alors on va voir un petit peu comment ça pouvait se passer. Et peut-être que le choix a été fait de l'inspirateur de la Bible, Dieu, de montrer cette histoire pour nous enseigner des choses tellement importantes et qui peuvent nous servir encore aujourd'hui. Opposés en tout point, en tout. Le premier, eh bien, se nomme Ésaü. Ses enfants grandirent, Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Voilà ce que le texte nous dit simplement. Alors, Ésaü, vous savez ce que ça veut dire? Vous avez une petite idée. Ça veut dire poilu. Remarquez, on ne donnerait pas ce nom-là à un enfant. Hein. Surtout qu'un petit enfant, quand il arrive, il n'a pas un poil sur la tête, hein, on peut dire. Enfin, ça peut arriver. Mais enfin, bon, toujours est-il, ça veut dire velu. Et il y a une autre expression qui veut dire qu'Ésaü, ça veut dire, eh bien, que c'était un garçon, il avait une épaisse chevelure. C'est-à-dire qu'il se caractérisait comme cela. C'était un épiderme fécond, on peut dire. Hein, il avait véritablement, eh bien là, cette peut-être même hirsute. Alors, je ne sais pas s'il faisait peur. Mais la caractéristique, il nous est dit que c'était un habile chasseur, un homme des champs. Ce qui nous laisse entendre qu'il devait avoir certainement une nature rustre. Un homme qui ne se plaisait pas à l'intérieur des maisons, mais un homme qui aimait bien courir à travers les champs, les bois, les forêts, et qui était, dont la passion était la chasse. Vous savez, il y a encore des passionnés de chasse, hein. Il y a des gens qui, voilà, pour eux, c'est quelque chose de très très important, la chasse. Et à ce moment-là, on se nourrissait aussi, hein, de la chasse. Alors, il en avait peut-être fait à la fois son travail, mais il en faisait aussi son, certainement, eh bien, hein, sa distraction. Alors ça, c'est le premier qui nous est présenté. Le second, donc ce sont des jumeaux naturellement, le second à naître, eh bien, il s'appelle Jacob. Et on connaît naturellement peut-être davantage la signification. Ça veut dire tout simplement supplanteur ou trompeur. Et ça, c'était vraiment la nature de Jacob. Bon garçon s'il en est, mais quand il avait l'occasion de faire des mauvais coups en douce, c'est ça, hein, je précise en douce, il ne se gênait pas. Voilà. Il le fera à tout le monde. Tous ceux qui vont rencontrer Jacob dans toute l'histoire de sa vie, il va toujours essayer de les tromper, de leur mentir pour leur extorquer quelque chose. Alors, l'un, c'est un homme des champs, et l'autre, il nous est dit que son caractère était le suivant. C'était un garçon tranquille. Peut-être que pendant ses tranquillités, il méditait ses mauvais coups. Voilà. Hein, il ne courait pas après les gibiers, là, dans les champs, mais son gibier, c'était peut-être autre chose. Et son arme, c'était le mensonge et la tromperie. Et il restait dans les tentes. À lui, il ne fallait pas lui demander d'aller courir avec ses bottes dans les champs, dans la boue, etc. Si boue il y avait, là, au Moyen-Orient. Mais toujours est-il que il restait auprès de maman, dans les jupes de maman. Vous voyez, on peut illustrer un peu les choses. C'est le jour et la nuit entre ces deux frères. C'est pour ça que la démonstration nous est donnée. Hein. C'était un homme tranquille qui restait dans les tentes. Et en plus, visiblement, l'un allait chercher le gibier et l'autre le cuisinait. Puisqu'il nous est dit tout simplement, à un moment donné, nous l'avons lu, hein, comme Jacob était à cuire, eh bien là, un potage. Donc c'est formidable, hein, d'avoir deux gentils garçons comme ça. Celui qui fait les courses et celui qui fait la cuisine. Une famille magnifique. Papa et maman devaient être certainement très contents, sauf qu'il nous est dit dans notre texte, Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, quel gourmand, hein, et Rebecca aimait Jacob. Est-ce que vous croyez que c'est normal, ça? Ils avaient chacun leur petit chouchou, leur favori. Parce que c'est marqué, hein. C'est pas qu'Isaac n'aimait pas son petit Jacob, mais c'était beaucoup plus viril pour lui, pour Isaac, de voir son garçon vraiment avec un arc, avec des flèches, et puis revenir avec toutes sortes de gibier, parce qu'il y avait de la gourmandise chez Isaac. On le verra un petit peu plus loin, Mais lui, son régal, surtout quand il est arrivé vieux. Vous savez, quand on devient vieux, quelquefois, on a des petites habitudes. Hein. Enfin, je ne veux pas trop insister. Mais toujours est-il que le bien manger est quelque chose d'important. Et son goût à Isaac, c'était de manger du gibier, mais pas n'importe quel gibier, c'était le gibier qui avait tué son préféré, qui était naturellement, eh bien, Ésaü. Alors, ceci dit, on va aller un petit peu plus loin. On a campé un peu les caractères et qui nous ont montré à l'évidence deux tempéraments, hein, il faut le souligner, qui vont déterminer les buts de vie de chacun. Oui, parce que, vous savez, ce que l'on est, ce que l'on fait, ce que l'on aime, les fréquentations que l'on a, eh bien, ça parle, ça dénote aussi notre personnalité, la façon dont nous vivons, notre langage aussi, hein. Et c'est assez intéressant parce qu'il y a une formidable étude psychologique sur ces deux personnages, mais ça ne s'arrête pas seulement à ces hommes de ce temps-là, mais ça va beaucoup plus loin parce qu'il y a là toute une dimension spirituelle qui va faire la différence entre l'un et l'autre. Et à l'évidence, ni l'un ni l'autre n'est exempt de défaut. C'est-à-dire que si l'on regarde, c'est pas pareil, naturellement, mais il y a là, guettant à la porte de l'un et de l'autre, des appétits et des convoitises. Pour l'un, ce sont des convoitises assez basiques, aller dans les champs, tuer du gibier, et puis voilà, courir un petit peu de tous les côtés. Et puis l'autre, un petit peu plus élevé. Mais on apprend aussi que le caractère de Jacob est quand même là. Oh, il aspire à des choses. C'est vrai, mais il ne veut pas se départir, finalement, de son tempérament qui est encore celui d'un homme qui n'est pas, dont le cœur n'est pas entier pour Dieu. Alors, on va donc découvrir. Et puis, il y a un événement anodin qui va tout bouleverser, c'est le verset 29, on va le lire. « Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. » Alors, c'est peut-être un euphémisme, mais quand on lit d'autres versions, c'est plus que accablé de fatigue. Il était vraiment exténué, vraiment au bout. Il avait couru, je ne sais pas après quoi, mais toujours est-il que il nous est dit qu'après un temps assez long, peut-être 2-3 jours d'après les commandateurs, eh bien, il avait couru, mais il était revenu bredouille. C'est-à-dire que la chasse avait été infructueuse. Et nous voyons qu'Ésaü va revenir à la maison. Il est fatigué, et plus que fatigué, il est déprimé. Puisque le dira, nous l'avons lu ensemble, puisque je vais mourir. Enfin, c'est pas parce qu'on est sorti 3 jours dans la campagne qu'on va mourir. Quelquefois, ça fait du bien de respirer l'air pur. Mais lui, il en était à un tel épuisement qu'il s'était dit, mais aujourd'hui, ah, ça va vous rappeler quelque chose. Mangeons et buvons, parce que demain nous mourrons. Ah, ça, c'est vraiment la proclamation de l'existentialisme, hein, parce que finalement, il n'y a rien derrière. Il n'y a pas de suite, hein. Et il en était là. Il croyait qu'il allait mourir parce qu'il avait couru, je ne sais pas combien d'heures dans les champs, et il en était là. Et il avait terriblement faim, à tel point que il allait en défaillir. Et quand il voit son frère en rentrant, finalement sous la tente, parce qu'il faut s'imaginer que c'est une tente, eh bien, il a senti l'odeur, et là, ça lui a donné encore beaucoup plus, finalement, envie de manger, et ça a creusé encore sa fatigue, et il se dit, mais si je ne mange pas, je vais mourir. Vous savez que on mange pour vivre. Oui. Et on ne vit pas pour manger. Mais remarquez, on est dans une société, aujourd'hui, vous avez vu, on parle de plus en plus d'obésité et tout ça, on se dirait, mais il y a quand même un problème de fond derrière. Un problème psychologique, un problème spirituel, j'irais dire. Où les gens, pour calmer leur angoisse ou calmer leur peur, on appelle ça de la boulimie. Mais il y a des réalités, hein. Et je ne sais pas s'il faisait de la boulimie, notre Ésaü, mais toujours est-il que le jour où il est rentré là dans la maison, eh bien, il était certainement pas très frais. Et nous voyons qu'il va s'adresser à son frère, et nous allons naturellement le lire d'ici quelques instants. Et il va faire une proposition donc à Jacob, et il va lui dire en substance, tout simplement, une proposition qui va avoir des graves conséquences, on va le deviner, et il va lui dire donc au verset 30, « Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » Il semblerait qu'il n'y a plus qu'une chose qui compte, c'est manger et retrouver des forces, ou alors mourir après avoir mangé. En principe, quand on mange, on reprend quand même quelques énergies. Mais lui, il en était à ce point-là. Donc, le plat, en réalité, est un ragoût. Vous savez ce que c'est que le ragoût? Ragoût de mouton, hein. Voilà, mais il paraît qu'on peut faire le ragoût avec pas mal de choses. Hein. Et C'est vrai que c'est très bon un ragoût finalement, hein. Il y a des gens qui savent bien le faire, hein. Moi ça me rappelle les plats de ma grand-mère, bon c'est pas d'aujourd'hui, hein. Mais vous savez, tout est bon quand on a vraiment faim. Et lui, comme il avait pas mangé depuis 3 jours, qu'il avait couru de tous les côtés, alors là c'était quelque chose, il a dû humer un petit peu tout ça, et il mourait naturellement et bien de faim. Il était prêt à tout engloutir. Vous savez, il y a des appétits, il y a des stimuli dans notre vie, il y a parfois des convoitises même, d'une manière ou d'une autre, de quelque nature que ce soit, où on est pris de fringales, autant pour les bonnes choses que pour les mauvaises. Et il semblerait que ce soit comme quelque chose qui nous captive, et puis là, on ne réfléchit plus, on y va, tout simplement. Ça peut être quelquefois, eh bien, des bonbons ou des gâteaux, hein. Ça arrive, ça, hein. On en mange un en disant « je n'en mangerai qu'un », puis finalement, c'est les 3 paquets qui y passent. Enfin, moi je connais certaines personnes, c'est un peu ça, mais bon, on va pas dévoiler les secrets de famille, hein, naturellement. Bon, toujours est-il que ça constitue quelque chose de particulier, et ce ragoût, eh bien là, c'était la recette naturellement de Jacob, et fait, là de ce temps-là, je ne sais pas comment il était fait, mais dans les versions modernes aujourd'hui, eh bien c'est en quelque sorte un mélange de divers ingrédients, qui satisfait au goût, qui satisfait aux besoins naturellement, et à la gourmandise des hommes. Alors, on peut manger un ragoût ce soir, un roux, si vous aimez mieux selon le texte, et puis demain, il faudra recommencer, parce qu'on va manger toute notre vie, naturellement. Voilà, c'est toute cette histoire de prendre, de refaire encore, et puis on sait très bien que, de toute manière, tout ça, eh bien, ça entretient notre existence, mais c'est pas l'essentiel et le principal. Je le disais tout à l'heure, hein, on ne vit pas uniquement pour manger. Il y a certainement d'autres aspirations et d'autres vues et d'autres perspectives, naturellement. Mais voici qu'il y a une transaction intéressante, ou plutôt une transaction intéressée qui est faite et qui se révèle pas très honnête. Et au verset 31, Jacob dit à son frère, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ah, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Il y a là une idée de mercantilisme, d'échange en quelque sorte, contre autre chose. C'est du commerce. C'est tu me donnes, je te donne, c'est une transaction. Et puis le droit d'aînesse, je ne sais pas si vous savez quand même ce que ça veut dire, mais il faut quand même peut-être l'expliquer. Le droit d'aînesse était un privilège qui était réservé dans les familles au premier-né. C'est lui qui avait le droit d'aînesse. D'ailleurs, dans les dynasties royales, il y a toujours un droit d'aînesse. Encore aujourd'hui, hein, nous on n'a plus de roi. Mais voilà, le garçon premier-né était naturellement le dauphin. Hein. Il y a des pays, ce sont des filles, mais en France c'est la loi salique, on l'appelle comme ça, c'est simplement les hommes. Enfin maintenant ça n'existe plus depuis la Révolution française. Mais c'est le droit, voilà, c'est celui qui deviendra eh bien le roi ou qui aura la première place. C'est réservé au fils aîné, et qui dans l'Antiquité et dans le temps où nous pensons, c'était quelque chose dans la culture qui était très importante, avait une grande valeur. Et celui qui avait le droit d'aînesse devenait le patriarche dans la société des Hébreux. Eh bien, il devenait le patriarche, il devenait le chef de famille, il commandait ses frères et ses sœurs, et puis toute la tribu en quelque sorte. Donc c'était un personnage important, avec tous les respects qui lui étaient dus, et les honneurs. Donc, si on en est là, c'est que le droit d'aînesse revenait à Ésaü. 2 enfants sont nés, jumeaux. Un va arriver, naturellement, avant l'autre. Et celui qui arrive, eh bien, c'est lui qui va avoir le droit d'aînesse. Donc, ça sera en quelque sorte, eh bien, celui qui va commander, dans la suite, eh bien, la famille, la tribu, etc., etc. Alors, Jacob qui perd jamais une occasion de faire des affaires, et on le voit là, hein. Parce que c'est vrai que pourquoi cette circonstance? On va le voir la raison du contexte. Il va lui dire, mais moi aujourd'hui, écoute, tu me demandes ta faim. Eh bien écoute, je te donnerai à manger si tu me donnes la primauté sur la famille et sur la tribu. C'est-à-dire, ton droit, tu le vends. Et puis, comme Jacob est Ésaü est quand même assigné, peut-être, j'allais dire un gros bêta, parce qu'il n'y a que son ventre qui compte. Lui, en dehors de son ventre et des yeux qu'il a au ventre, il ne voit pas grand-chose. Alors, il va lui répondre, Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. » Vous comprenez dans quel état il est arrivé de la chasse. Hein. Il n'était pas très, très, très bien. Hein. Et il va dire ceci, mais à quoi me sert? À quoi me sert, tout simplement, eh bien, le droit d'aînesse? On comprend ainsi la chose, de cette manière, Ésaü ne pense qu'à se remplir le ventre, pour se soulager de cette faim qui le tenaille, de reprendre quelques farces, bien qu'il pense qu'il va mourir. Bon, un jeune homme comme ça, il ne va pas mourir, c'est pas possible. Il ne pense qu'à courir les bois, comme je vous ai dit tout à l'heure. En d'autres termes, nous pourrions dire que c'est un bon vivant. Sorti de la conversation de la chasse, il ne sait rien d'autre. Hein. Vous savez qu'il y a des gens qui sont très limités hein, dans leur perspective, voilà, la connaissance générale. Hein. Et ils se disent, ben voilà, ça c'est un bon vivant. Il a des amis, certainement. Son frère n'est pas forcément un ami, parce que les discussions qu'il a pour courir les lapins et les lièvres et les perdrix et tout ce que vous voulez, ça ne l'intéresse pas, Jacob, tout ça. Hein. Lui, il les veut plumer, dépouiller pour les mettre dans la marmite, c'est tout. Hein. Mais au-delà de tout ça, ça va pas plus loin. Alors, on peut qualifier donc Ésaü d'un bon vivant, sans préoccupation, écoutez bien, sans préoccupation aucune, autre chose que la terre. Et on l'appelle le profane. Alors je verrai ce que signifie le mot profane. Lui, pour nous, pour lui, la vie, eh bien, c'est simplement ce qui lui plaît. Mais par contre, Jacob vise des buts plus valorisants et il va se caractériser par un sens des valeurs sacrées et des valeurs spirituelles. Bien que je doive le souligner, et je ne reprends pas ce que j'ai dit tout à l'heure, bien qu'il soit un supplanteur, un menteur et un trompeur. Eh oui, c'est quand même assez paradoxal. C'est quand même assez paradoxal de vouloir aspirer à les choses de haut, des choses de Dieu, aspirer à des choses autrement que bassement terrestres. Oui, mais Jacob, il n'a pas fait son expérience encore, qui viendra quelque temps après, qui viendra, disons, 20 et quelques années plus tard, même plus que ça d'ailleurs, au torrent de Jacboc, où là il va se retrouver seul, où il n'a plus ses amis, où il n'a plus personne autour de lui, et là il va avoir un combat de titans. Un combat de géant à mener, et contre Dieu lui-même. Et là, à ce moment-là, eh bien, il va capituler, Jacob, et il lui a fallu près de 25 ans pour en arriver là. Mais pourtant, au fond de son cœur, ce jeune Jacob, eh bien, dit qu'il aime Dieu, mais il ment. Qu'il aime bien les choses qui soient autre chose que, finalement, les contingences de cette misérable existence ici-bas. Mais il reste quand même, eh bien, un homme qui a des mauvais sentiments dans, au fond de lui-même. Donc, tu voyais que ça peut marcher en parallèle, hein. Alors, c'est pas un saint, Jacob, hein. Il faut pas se leurrer, hein. Et tout l'enjeu réside dans le choix que va faire l'un et l'autre maintenant. Et dont nous allons aborder la question. La réflexion d'Ésaü en témoigne au verset 32. Et je me permets de le relire. Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse, dira-t-il. Alors, si Jacob avait perçu certaines choses qui étaient un petit peu plus élevées, Ésaü ne voit rien du tout. C'est vrai qu'il était fatigué un jour-là, mais quand même, parce qu'il a toujours été comme ça, Ésaü. Hein. Et il dira, mais finalement, c'est vrai que je suis le frère aîné. Je suis le fils aîné, mais qu'est-ce que ça va me donner de plus? Moi, pourvu que je puisse aller courir après mes lapins et puis mes gibiers, ça me suffit. Hein. On voit qu'il est complètement désintéressé de ce qui a de la valeur. Et je voudrais mettre le doigt sur quelque chose. Dans la vie et dans le monde, dans notre existence, il y a des choses qui ont de la valeur, d'autres pas. Et on s'aperçoit que nous sommes dans une société où on attribue les valeurs à ce qui n'en a pas, ou de valeur à ce qui n'en a pas, et on passe à côté des vraies valeurs. C'est pour ça que Jésus dira, mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Alors les restes, le reste, les choses, toutes les banalités de la vie, tout ce qui fait peut-être nécessaire, mais tout ce qui est secondaire, alors pourquoi vous inquiétez-vous de cela? Et il dira, mais la vie est beaucoup plus que la nourriture, et le corps est beaucoup plus que le vêtement, parce que si on n'a pas la vie, mais à quoi ça sert d'avoir de la nourriture, des vêtements? Si on n'a pas la vie, ça ne sert à rien. Vie végétative, vie de médiocrité. Et ça, c'était le problème d'Ésaü, c'est parce qu'il ne comprenait rien à tout cela. Tout simplement. Sa vue était une vue à court terme, tout simplement. Et quand il dira, mais à quoi ça me sert? Et moi, je reprendrai la question, peut-être davantage pour nous, qui écoutons la parole ce soir. Une grâce, ou la grâce, à quoi ça sert? La vérité, à quoi ça sert? La foi, à quoi ça sert? L'espérance du ciel, à quoi ça sert? Est-ce que je vais mettre du côté d'Ésaü ou je vais mettre du côté de Jacob? La question, elle est là. Ça sert à quoi, la vérité? Et on s'aperçoit que c'est tout simplement du mépris quand il dit ça. À quoi me sert de? Ou ceci, cela? Et il dit, ça ne sert à rien. Il va en tirer la conclusion que ça ne sert à rien. Qu'un plat de lentilles ou un ragoût, ça vaut plus que tous les trésors moraux ou les trésors spirituels. C'est comme ça qu'on peut le comprendre. Vous savez, il y en a qui font bonne mesure ou peu de cas de ce qu'ils sont des hommes, de ce que Dieu leur a donné l'existence, que Dieu nous a donné un capital vie, souffle ou vie. Et que devant ce qu'il a mis à l'intérieur de nous-mêmes, dans chaque créature, la conscience, l'intelligence qui nous permet de réfléchir, qui nous permet de peser ce qui est bien, ce qui est mal, d'aspirer finalement à la lumière et de fuir les ténèbres, c'est-à-dire le mal, le péché, enfin toutes sortes de choses, c'est quand même pas banal tout ça. Ça sert quand même à quelque chose. Si nous vivons uniquement pour une perspective que nous pouvons vivre 50 ans pour certains, 60, 80, 90 ans pour d'autres, et qu'il n'y a plus rien derrière, que finalement, nous sommes sur la terre, mais que nous ne finirons plus, le ciel n'existe pas, bien que nous le voyons tous les jours, et qu'il n'y a plus qu'une chose, c'est que nous finirons dans la poussière, et puis ça sera, on ne parlera plus de nous, naturellement. Mais quelle existence! Dieu a mis la pensée de l'éternité dans le cœur de l'homme, on le sait, ça, hein. Et on peut pas dire que ça sert à rien. Et Ésaïe, lui, mis à part ses petites courses dans les champs, il n'y avait que ça, aucune autre perspective. Il n'y avait rien d'autre pour lui. Alors, on pourrait dire qu'Ésaü est l'exemple typique de l'homme qui est en train de gâcher sa vie, tout simplement, pour le miroir aux alouettes. Le miroir aux alouettes, pour un chasseur, c'est quelque chose qui parle. Hein. Depuis ma petite enfance, moi je suis né dans une famille de chasseurs. Mais je ne peux plus y aller le dimanche matin, vous comprenez pourquoi. D'ailleurs, vous trouviez ça bizarre de me voir avec un fusil. Mais toujours est-il que je vois Myriam qui dit « Attention, pas question, je ne lâche pas le matin, hein, le dimanche matin. » Non, mais je vois, hein, même quand je n'ai pas mes lunettes. Mais toujours est-il que j'ai vu ce que c'était qu'un miroir aux alouettes. Vous avez une petite idée de ce que c'est? On aime l'expression « miroir aux alouettes » comme quelque chose qui fascine, quelque chose qui attire, mais c'est vrai. C'est un petit pivot qui est à peu près haut de, je sais pas moi, 30 cm à peine. Et il y a dessus, comme deux ailes en bois, hein, tout ça c'est en bois, comme deux ailes, il y a des petits miroirs qui sont collés dessus, vous voyez, hein, ça fait un petit chapeau, et puis ça tourne sur le pivot, et il y a une ficelle. Alors le chasseur, qu'est-ce qu'il fait? Il se met dans un buisson, il se met où il peut, mais toujours est-il que c'est par jour de soleil, hein, vous comprenez, parce que ça fonctionne pas quand il pleut ou quand il y a des nuages. Il tire, il agite, et donc ça fait tourner le petit chapeau comme cela, et au soleil ça brille, et c'est là où les alouettes, fascinées, miroir aux alouettes, elles viennent. Le chasseur, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son fusil et il tire dans le tas, parce qu'elles sont pas toutes seules, vous comprenez. Je vous emmènerai à la chasse aux alouettes un de ces jours, vous viendrez avec moi, vous verrez, ce sera, hein, d'accord, ici ce serait pas des alouettes, ce serait plutôt des mouettes, mais enfin bon, la mouette, c'est pas tout à fait comestible, ça ne doit pas être très bon, à moins d'être un super cuisinier. Et c'était justement le problème, c'est que lui, il a gâché sa vie, Ésaü, parce qu'il ne regardait finalement qu'à ce miroir des choses qui pouvaient lui convenir, des choses qui l'intéressaient, mais au-dessus, ça ne concernait pas. Et l'intérêt de la vie pour lui, c'était ce miroir et puis toutes les autres peccadilles de la vie sans importance, ça n'allait pas pour lui. Et vous savez que ça lui a coûté cher à Ésaü, parce que il a toujours poursuivi des buts mauvais, ouais. À chaque fois qu'il a fait quelque chose, ça lui est toujours échappé. Il nous est parlé qu'il s'est marié à plusieurs reprises. Il a eu plusieurs épouses, mais qui ont été véritablement son affliction. Il y a un texte qui nous dit dans le passage que ça a été une source d'amertume pour, Isaac et Rebecca, les parents d'Ésaü, parce qu'il avait fait vraiment des mauvaises alliances. Moi, je ne sais pas ce que c'était, ses filles. Mais toujours est-il que ça ne devait pas être certainement, du goût là, de des parents. Et tous ces mobiles d'existence, tous ces mobiles qu'il a eus pour son existence ont contenté ses appétits charnels et ses instincts primaires. C'est tout, ça n'allait pas plus loin. C'est l'homme naturel dont nous avons parlé. Si vous voulez, mais faut pas le prendre, hein, mais c'est l'homme animal. C'est-à-dire qu'il fonctionne avec, finalement, eh bien, des choses très simples. Ésaü, échange contre un plaisir fugace ses droits et une destinée d'exception que Dieu voulait lui donner. Il était le premier-né et il avait droit à tous les honneurs et tout le respect. C'est lui qui allait devenir le patriarche. Et il va passer à côté. Il va, comme on dit aujourd'hui, zapper le plan de Dieu, la bénédiction de Dieu, la grâce de Dieu et le salut de Dieu. Tout ça pour des vulgaires choses qui... pour un plat de lentilles, c'est le mot qui nous est donné. Un plat de lentilles qui va avoir des cailloux. Hein. Aujourd'hui, quand on achète des lentilles, vous avez vu, elles sont bien triées. Mais dans le temps, on se cassait les dents. Hein. Il y a toujours des cailloux. Hein. Alors, un plat de lentilles, on pourrait dire peut-être stupide, dérisoire. Et c'est ce que Jésus nous laisse entendre quand il parlera de cette manière dans l'Évangile. Que servirait-il à un homme s'il gagnait le monde entier et qu'il perdait son âme? Enfin, c'est l'illustration de ce que Jésus nous enseigne. On va rapidement atteindre le verset 33. Et il nous est dit, Jacob a donc répondu à son frère, jure-le-moi d'abord. Vous voyez, on voit toujours le méfiant, le commerçant, le trompeur. Hein, jure-le-moi d'abord. Ils devaient se connaître, hein, les deux frères. Et Ésaü le lui jura. Et il lui a vendu son droit d'aînesse. Il a vendu son droit d'aînesse à Jacob, en pensant qu'avec le temps, Jacob l'aurait oublié. Et on aura l'occasion de le voir très prochainement. Je donnerai une suite, même pas plus tard que dimanche prochain, que ça n'a jamais été oublié dans la mémoire de Jacob. Vous savez, des gens comme Jacob, tout marche par l'intérêt. Et c'est toujours très rusé et très subtil. Avec ce tempérament, avec ce caractère. Et il s'est dit, tu m'as vendu ton droit d'aînesse, tu verras qu'un jour, eh bien, je vais te supplanter. Un jour, c'est toi qui viendras te mettre à mes genoux. Ça allait loin, hein, naturellement, hein, tout cela. Alors, dans cette situation, on est en face d'une sottise. De donner vraiment, de jeter, on pourrait dire, ses pelles au pourceau, bien que son frère Jacob n'était pas, naturellement, c'était son frère. Mais la Bible nous le dit aussi, ne jetez pas vos perles au pourceau, de peur qu'ensuite, il se retourne contre vous et puis il vous fasse du mal. Donc c'est une sottise grossière. Et d'avoir refusé les cadeaux divins, puisqu'il avait le droit d'aînesse, dans ce sens. Que comprend son salut d'abord, la foi, la grâce, le service et ses récompenses. Combien d'hommes, et peut-être même des chrétiens, combien d'hommes ont quelquefois commencé à marcher avec Dieu, se sont arrêtés, après avoir fait une belle profession de foi, avoir peut-être abandonné certaines choses qu'ils ont reniées et qui, au fil du temps, manquant de racines ou de persévérance ou de fidélité, eh bien, en sont venus à tirer un trait en disant « Mais qu'est-ce que ça vaut tout ça? Qu'est-ce que ça vaut? Ça ne vaut rien du tout. Oui, c'est vrai que j'ai cru en Dieu, mais aujourd'hui, son salut, est-ce que véritablement ça existe? La grâce de Dieu, la foi, est-ce que c'est quelque chose qui est important? J'ai cru que ça pouvait être important, mais maintenant, non. Non, non, je pense, je retourne à ma condition première. Il y en a même qui ont abandonné le service. Hein. Et si on abandonne le service, il y aura aussi l'abandon des récompenses. Hein. C'est logique. Mais on ne travaille pas pour le Seigneur pour des récompenses. On travaille pour amour, par amour pour lui. Et on s'aperçoit que l'histoire d'Ésaü, eh bien, c'est encore une histoire d'aujourd'hui, où on remet en doute après avoir cru, où on rétrograde, où on dit, ben maintenant, je reprends ma vie, je choisis moi-même et je retourne à ce qui, véritablement, a fait aussi mon plaisir dans le passé. On avait oublié l'Égypte, vous comprenez? Oui. Vous savez, les Israélites, quand Dieu les a fait sortir d'Égypte, quand ils ont commencé à rentrer dans le désert et que les choses devenaient un peu plus sérieuses, parce qu'il fallait apprendre la marche par la foi, et qu'ils ne voulaient pas vraiment croire en Dieu, parce qu'ils voulaient croire en un Dieu qu'ils voyaient, mais Dieu leur a dit, vous ne me verrez pas, parce que je suis un Dieu invisible, mais ma présence sera toujours au milieu de vous. Eh bien, à un moment donné, ils ont commencé à murmurer, se plaindre, à critiquer, ceci et cela. Et ils se disaient, mais qu'est-ce que nous aimerions bien retourner en Égypte, alors qu'ils avaient crié pendant des siècles et des siècles pour sortir d'Égypte, retourner dans le monde. C'est un peu l'histoire d'Ésaü, pardon. Et ils ont quitté le meilleur de la vie, parce que le meilleur de la vie, il faut quand même le rappeler ce soir, c'est quand même vivre avec le Seigneur, pour aller à la poursuite de choses périssables et totalement inutiles. Et nous allons terminer sur le verset 34. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Du pain, c'est ce qu'il voulait. Du potage, le fameux, la bonne recette là de ragoût. Il a mangé, il a bu, il s'est levé et il s'en est allé. Je trouve que c'est quand même une fin pitoyable et d'une grande tristesse. D'une grande tristesse parce que ce jour-là, certes fatigué, déprimé, angoissé, tout ce que vous voudrez, exténué, enfin on peut y mettre tous les mots, prêt à mourir, il a vendu ce qu'il avait le plus précieux. Il a vendu son âme pour un misérable plat de lentilles. Et ça, c'est une chose qu'il ne faut jamais, jamais, jamais faire. Soit nous avons des valeurs ou nous n'en avons pas. Ouais. Soit nous sommes un profane comme Ésaü, ou alors, même si nous nous appelons Jacob avec tous les défauts qui le caractérisaient et que nous pouvons aussi avoir sous une forme ou sous une autre, mais que nous ayons le sens du sacré. Le vainqueur dans cette affaire, c'est Jacob. Parce que Dieu va l'attendre à un moment donné pour le mettre à son école et il va changer Jacob. À un moment donné, il va changer, il va se convertir, il va pleurer sur ses fautes, il va pleurer sur sa misère, il va pleurer sur les mauvais coups qu'il a fait aux autres, mais il va changer, et on le voit à la fin de sa vie, adorant, il nous est dit, adorant l'Éternel sur l'extrémité de son bâton. Ben, il était prêt à aller au ciel. Mais Ésaü, lui, pour une histoire de manger et de boire, d'avoir une belle maison, une belle voiture, et tout ce que voudrait que la société peut nous donner aujourd'hui, il a vendu son âme. Quelle catastrophe! Quelle catastrophe! Et quelle piètre considération nous avons de la grâce que Dieu fait aux hommes à ce moment-là. C'est la tragédie tout simplement d'une vie sans horizon, ni perspective, sans but plus élevé que l'immédiat et le temporel. Oui, c'est ce que nous avons dit. Vous savez qu'il nous est parlé d'Ésaü dans le livre du Nouveau Testament. Je voudrais lire simplement le texte. Parce que c'est intéressant, on en parle dans le livre de la Genèse et après on en parle à la fin de la Bible. Pourquoi en parle-t-on à la fin de la Bible? Eh bien on va le lire, c'est dans le livre des Hébreux, chapitre 12, verset 16. Il nous est dit ceci, qu'il n'y ait au milieu des chrétiens, verset 16, à ce qu'il n'y ait dit débauché, je ne pense pas que Ésaü c'était un débauché, mais ni profane, comme Ésaü, voyez, il nous en est parlé, qui, pour aimer, vendit son droit d'aînesse, vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, parce que le droit d'aînesse c'est la bénédiction du Père, il fut rejeté, quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père Isaac à changer de sentiment. C'est-à-dire, tout simplement, eh bien là, son repentir, quand il a vu qu'il avait fait une bévue de passer à côté de la bénédiction de Dieu, pour des choses misérables et des choses qui n'en valaient pas la peine, il s'est dit maintenant, je vais demander pardon, je veux récupérer mon droit d'aînesse, mais il était trop tard. Trop tard. C'était fini pour lui. C'est pour ça qu'il est parlé de profane. Qu'est-ce que c'est qu'un profane? C'est pas celui qui casse seulement des statues, qui va dans les églises et qui renverse tout. C'est de la profanation, ça. Mais la profanation, c'est ça aussi. C'est piétiner les choses qui sont saintes. Les vérités que Dieu nous donne, la foi, la grâce, le bonheur que Dieu nous propose et que nous disons, c'est rien du tout, ça ne sert à rien. Et on sait très bien que dans l'histoire après, quand il a voulu maintenant récupérer les choses, c'était Jacob qui avait la bénédiction. On le verra dimanche matin, vous verrez comment ça s'est fait. Et là vous allez voir toute la dimension splendide et merveilleuse de Jacob dans ses heures. Parce que quand on parle d'un menteur et d'un trompeur, Il a su y faire. Je termine sur une chose. Attention au miroir aux alouettes. On est dans un monde où ça brille de tous les côtés. Vous connaissez l'adage, hein ? Tout ce qui brille n'est pas d'or. Ouais. Quand on voit comment les gens sont captivés, sont happés, sont fascinés, sont envoûtés même, enchantés, du mot enchantement, que les gens sont menés par le bout du nez, voilà, parce qu'il y a quelque chose qu'ils convoitent, des choses secondaires, des choses qui n'ont qu'un intérêt secondaire, et de voir qu'ils y mettent toute leur vie en oubliant l'essentiel, en oubliant l'essentiel, en nous souvenant que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. On n'est pas des animaux. Dieu a mis quelque chose de spécifique pour l'espèce humaine. C'est de savoir que nous, nous sommes sur la terre, mais qu'au ciel, il y a un Dieu et un Dieu sauveur. Et il nous a donné un trésor. C'est ce qui fera dire à l'apôtre. À un moment donné, il l'écrira. Il dira, mais Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et nous avons des yeux pour voir et nous avons un cœur pour croire. Paul le dira, que les choses que Dieu a créées, elles se voient comme à l'œil nu pour ceux qui les considèrent dans ses ouvrages. La puissance de Dieu, la divinité de Dieu, la splendeur incomparable de Dieu. Et il dira des hommes qui ne savent pas voir ça, ils sont inexcusables, comme Ésaü était inexcusable. Un dernier verset, si vous permettez, dans Colossiens chapitre 3, versets 1 et 2. Et Paul dira ces mots. « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, si vous êtes né de nouveau, si vous avez la foi en Dieu, si vous êtes enfant de Dieu, si vous êtes les disciples de Jésus-Christ, il vous est dit, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, attachez-vous. » Et la traduction peut-être pour certains dans votre Bible, c'est « affectionnez-vous ». Et l'histoire, et le mot, le verbe « affection », c'est un mot qui parle d'amour. C'est soit l'amour des choses du monde, ou c'est soit les choses que Dieu nous a données, les choses spirituelles. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et ça, c'est important. C'est important pour les chrétiens que nous sommes aujourd'hui. Et c'est important peut-être pour celui qui pousse la porte de notre salle, qui vient pour la première fois écouter l'Évangile et qui a quelques aspirations et qui dit « mais il y a certainement quelque chose, la vérité elle doit se trouver quelque part, mais la vérité elle ne se trouve pas ici, elle se trouve en Jésus-Christ que nous annonçons ». Et ça c'est le véritable trésor, parce qu'on ne peut pas servir de maître à la foi. Eh oui. Alors, Jacob, Ésaü, on a vu les tempéraments, on a vu les caractères, on a vu le choix de l'un et de l'autre, et les aboutissements de tout ça. C'est quelque chose de grave, et on voudrait le dire au monde entier. Pour l'amener à s'arrêter, aveugle qu'il est le monde, qui pense peut-être voir, mais qui ne voit rien du tout. D'ailleurs, ça se traduit très souvent par une peur terrible de la mort, parce qu'il y a une fin à tout. Mais pour les chrétiens, c'est tout à fait différent. Aspirez, affectionnez-vous, attachez-vous aux choses d'en haut. Que le Seigneur nous bénisse ce soir, et que Dieu nous donne sa grâce, et de pouvoir faire le bon choix. Et le bon choix, c'est le choix de Jésus-Christ. Et c'est à partir de lui que nous avons le vrai trésor pour le temps présent et pour les temps éternels. On va prier quelques instants, si vous le voulez bien. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que ta parole est toujours pertinente. Elle est toujours avec un enseignement. Elle nous amène, c'est vrai, à travers des textes qui peuvent paraître parfois à notre société, à notre monde étrange, quelquefois difficile à comprendre, mais ce sont pourtant des images qui nous parlent et qui nous montrent, Seigneur, que nous sommes toujours à la croisée des chemins entre les choses de la terre que nous n'avons pas à renier puisque tu nous as fait hommes de la terre et tu nous as donné tout ce qui contribue à cette vie sur la terre, à manger, à boire, à travailler, à nous réjouir, et puis toutes ces choses. Tu n'es pas contre puisque tu les as fait pour nous. Mais Seigneur, quelle est la place que nous te donnons, nous, dans notre cœur? En effet, si c'est les choses de la terre qui disparaîtront à un moment ou à un autre parce que elles sont, c'est vrai, temporelles, elles disparaîtront, ou est-ce que c'est au niveau de notre âme, de notre cœur, de notre conscience et de notre esprit qu'à ce moment-là, eh bien, nous pouvons user de ces bonnes choses que tu nous as données ici-bas, mais il y a des choses qui ont encore plus de valeur. C'est ce qui nous vient de toi, c'est les dons sacrés que tu as donnés, Seigneur, aux hommes qui espèrent en toi, qui t'écoutent et qui marchent dans tes voies, qui t'obéissent ou qui obéissent à ta voix. Seigneur, nous voulons te remercier et te dire ce soir, eh bien, Seigneur, nous ne voulons pas perdre notre vie, nous ne voulons pas perdre notre âme pour un vulgaire plat de lentilles, parce qu'il y a beaucoup plus que cela. Et nous te remercions et nous te bénissons. Tu as mis devant nous, eh bien, les promesses de la vie présente, mais aussi les promesses de la vie éternelle. Et nous, nous choisissons de donner la priorité aux promesses de la vie éternelle. Merci Seigneur. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.